le thème s'intitule « Canaan et notre héritage ». Les ingrédients qui nous amènent à percer, à entrer dans notre héritage, comme nous l'avons dit le dimanche dernier, était la joie. Mais il n'y a pas que la joie. Justement, en parlant de la joie, la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». Dieu nous dit d'être toujours joyeux. Et la joie est contaminante. Nous voulons donc que notre gaieté devienne une plateforme sur laquelle nous nous posons pour tutoyer l'avenir et rigoler, rire, sourire de ce qui arrive. En clair, celui qui sourit en regardant l'avenir est en train de nier et complètement ramener en second lieu les réalités que les yeux, ses yeux, voient. Les sons que la terre émet dans ses oreilles, les sons qui lui disent que tu ne réussiras jamais, les sons qui lui disent que pour toi tout est déjà plié, les sons qui disent que ton cas ne sera jamais validé. Nous abandonnons, nous nous déshabillons de ces vêtements charnels, terrestres et humains, et nous nous habillons des vêtements nouveaux et prophétiques. Nous ne regardons pas au passé, sinon pour recevoir ou tirer des leçons du passé. Mais notre focus, comme on dit, ou notre regard est tourné vers l'avenir. Et nous savons que cet avenir est radieux, parce que le Seigneur est notre maître. Cela ne veut pas dire que l'avenir ne sera pas parsemé d'embûches, d'épreuves, ou encore de plusieurs réalités négatives. Mais même au travers les ténèbres, nous voyons la lumière commencer à grossir. La Bible dit au commencement, le monde était informe et vide, et il y avait les ténèbres au-dessus des eaux. Mais dans ces ténèbres, il y avait Dieu. J'aimerais donc qu'au travers des difficultés, des réalités sombres de votre vie, que vous soyez capable par la foi de voir la lumière divine qui monte et qui finira par dominer les ténèbres grandissant. C'est donc avec cette conception que nous voulons mettre notre pied dans les Jourdains et traverser avec Dieu. Celui qui donne peu, disais-je tout à l'heure, moissonnera peu. Et celui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. Il est donc important ici pour nous de donner un grand espace de notre cœur à la pensée, à la parole de Dieu. Il est donc important pour certains d'entre nous, si pas tous, de commencer à donner plus d'espace à Dieu dans notre emploi du temps. Et celui qui donne peu, moissonnera peu. Et celui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. Puisque nous parlons de la saison de la moisson, nous pensons que c'est le moment favorable et propice pour certains d'entre nous, matériellement, qui n'ont jamais appris à donner à Dieu, d'apprendre à donner à Dieu dans cette saison particulière parce que la terre est fraîche, parce que la terre est fertile, parce que la rosée du ciel fertilise la terre. Quel autre temps serait favorable et propice pour nous de nous donner à Dieu et de donner à Dieu? Notre temps, nos compétences, nos talents, à certains égards, nos finances. Il y a dans certaines parties du monde où l'on ne peut pas cultiver parce que ce n'est pas la saison. En Dieu, il n'y a pas une saison où Dieu veut que son fils ou sa fille soit beaucoup plus productif, beaucoup plus engagé. Nous ne sommes pas de croyants saisonniers. Nous ne sommes pas de fils et de filles du royaume saisonniers. Nous sommes full season. Nous sommes des gens des quatre saisons. Pour le contraire du monde, ou tout au plus, il y a quatre saisons. Automne, hiver, printemps, tout comme été. Nous voulons donc comprendre ce que Dieu veut nous montrer et nous révéler aujourd'hui. Voici les moments propices pour Dieu. Dieu, à l'époque, prit Joseph, selon qu'il est écrit dans le livre de Psaume 105. Il envoya en Égypte dans une terre étrangère. C'est comme si Dieu avait pris ce jeune homme comme une semence et va le lancer ou le jeter sur une terre fertile pour plus tard devenir semblable à un grand arbre sous l'ombre duquel viendra s'abriter son père Jacob, ses frères et sœurs, et bénéficier de l'ombre égyptienne. En d'autres termes, bénéficier de la protection, de la grâce, des faveurs et de tout ce que l'Égypte pouvait leur offrir. Ma prière cet après-midi que tu sois dans la main de Dieu comme cette semence qui sera jetée en terre afin de devenir un arbre qui portera des fruits et qui sera donc une bénédiction pour plusieurs. Dans certains coins, certaines personnes venant de nos pays disent « Notre pays est profondément béni, grandement béni, au point que vous pouvez laisser tomber un noyau d'une mangue sans creuser, sans l'enfouir dans le sol et revenir quelques mois et voir une plante en train de pousser. » Ça peut être le noyau d'un avocat, ça peut être le pépin d'un fruit, la terre, la nature ou encore les eaux du ciel viendront donc fertiliser le terrain et permettre à ce que ce pépin se transforme demain, après-demain, en d'autres fruits. En clair, Dieu veut que nous considérions premièrement la saison dans laquelle nous sommes, que la saison calibre ton fonctionnement, ta pensée, ta vue et aussi ta foi. En quittant la France, je me disais, je viens dans le Grand Nord et certainement ici, il fera moins 5 ou moins 10 degrés. Et en partant de la France, il a fallu que ma valise soit composée avec la connaissance que j'avais de la température du Nord américain. La compréhension de la température ou de la saison va calibrer ton fonctionnement, va calibrer ton accoutrement, va calibrer ta manière d'agir. En sortant de la maison le matin, après avoir consulté la météo, tu sauras savoir s'il faut amener un parapluie ou pas, parce qu'il va pleuvoir ou parce qu'il ne va pas pleuvoir. Tu sauras s'il fera assez froid, il faut amener un pull ou il faut amener un manteau. Il est donc important pour nous de saisir cette réalité parce que la conscience et la considération de ce que tu vas poser comme acte, de ce que tu auras comme fonctionnement, dépend de ta perception prophétique de la saison dans laquelle nous vivons. Les frivoles, les moins consciencieux, continueront à agir, à s'habiller comme en été, tandis qu'on n'est plus en été. Et les conséquences peuvent être fatales dans votre santé, parce que vous avez confondu le temps, et le temps va confondre votre vie. Il est donc dit dans le livre de Josué, chapitre 3, versets 14 à 16, ceci, « Le peuple sortit de ses tentes pour passer les Jourdains, et les sacrificateurs qui portaient l'arche et l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau. » Il y a une expression qui dit « il faut mouiller le maillot ». En d'autres termes, on parle ici d'un engagement total sérieux de chacun d'entre nous. Voici donc les réalités qui vont nous propulser vers cet héritage. Ne perdez pas à l'esprit que nous parlons de la traversée. Nous entrons dans les territoires où Dieu nous veut, là où sont attachées nos bénédictions, là où sont attachées notre guérison, là où sont attachées notre élargissement, notre maturité. En clair, la terre promise sous-entend simplement que Dieu nous a fait une promesse. Et les promesses de Dieu ne sont pas des promesses négatives, comme tous le savons ici. C'est là où Dieu a accroché les belles et meilleures choses pour ma vie, pour ta vie, pour notre vie à tous. Mais pour y traverser, pour y arriver, il y a un grand Jourdain. Il y a un grand Jourdain. Plusieurs principes ici vont être révélés. Il y a une chose, la Bible dit, il devait donc traverser et que leurs pieds devaient être mis dans l'eau. Et une fois que leurs pieds furent mouillés, les Jourdains régorgea par-dessus toutes ses rives, tous les temps de moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, et à très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupés et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Quelle belle image! Le Dieu des cieux, celui qui avait ouvert la mer Rouge à l'époque de Moïse, était encore en action. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant, il agit et il agira. Mais il y a des préalables qui permettent à ce que la main de Dieu se manifeste. Il y a la responsabilité divine et il y a la responsabilité humaine. Dieu pouvait cliquer ou claquer les doigts pour que le Jourdain soit sec, fraye un chemin pour que le peuple avance. Mais il doit y avoir un mariage entre la volonté de Dieu et l'obéissance de l'homme. Dieu leur dit que les sacrificateurs portent donc l'arche de l'alliance sur leurs épaules. Nous voyons ici les domaines de sacrifice dans lesquels Dieu nous pousse tous. Et il dit, mettez vos pieds dans l'eau, l'obéissance à ce que Dieu dit pendant la saison de la moisson. Voici les quelques réalités qui vont brosser ici le message de cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe au temps de la moisson? La foi doit être augmentée. La capacité de suivre ceux qui portent la gloire de Dieu. En d'autres termes, la capacité de s'aligner sur le leader qui, lui, a le mandat de Dieu. Qu'est-ce qui arrive en temps de moisson? Dieu opère des grands miracles, au point que l'adversité, la férocité, la dangerosité, la brutalité du Jourdain, qui pendant cette saison est beaucoup plus dangereuse, est complètement affaiblie par la puissance d'un peuple qui marche en accord avec Dieu et qui vit dans un partenariat divin avec le Seigneur. Rappelez-vous que lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, les Jourdains qui régorgent notamment avec violence dans cette saison, s'est complètement humilié et s'est fait dompter par la toute-puissance du Dieu des cieux, devant un peuple mortel qui peut être malade, qui peut douter, qui peut craindre, qui peut pleurer, et qui peut vivre plusieurs réalités qui révèlent quelque part la faiblesse de la vie humaine, la vie dans laquelle nous nous trouvons. Immortel spirituellement, mais mortel physiquement. Petit humainement parlant, mais avec un grand Dieu qui nous rend grand. Nous savons que lorsqu'ils étaient en train de traverser, c'était une génération nouvelle, la génération qui était restée fidèle à Dieu. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte à l'époque avaient été tués, sont tous morts à l'époque dans le désert, sauf Josué et Caleb, qui eux avaient un langage différent. Pendant que le peuple disait « nous ne pouvons pas entrer, nous ne pouvons pas vaincre, nous ne pouvons pas gagner » contre Jéricho, les deux qui avaient un langage différent, non pas défaitiste, étaient les seuls à qui Dieu avait donné la vie. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il y avait des milliers de personnes qui suivaient donc Moïse. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts dans le désert, sauf deux personnes. Et la chose qui les a empêchés de courir droit vers la mort, c'était la déclaration. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et proclames ce que tu as crié, tu seras sauvé. Et ces hommes ont cru aux promesses divines qui disaient que nous irons dans le territoire promis par Dieu et nous allons vaincre. Ils n'ont pas tenu compte de la grandeur, de la taille, de la puissance, de l'historicité de la population qui était à Jéricho. Ils se sont appuyés sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit que c'est une année de sourire. Je refuse de croire ce que mes yeux voient. Je refuse d'entendre les sons de la terre qui me dit « ton cas est fichu, plié en mille morceaux et mort ». Je continue à croire que ce que Dieu dit est vrai, que c'est Dieu qui a raison et non pas mes propres oreilles. C'est Dieu qui a raison et non pas mes propres doutes. C'est Dieu qui a raison et non pas mon âge. C'est Dieu qui a raison et non pas mes diplômes. C'est Dieu qui a raison et non pas mon matelas financier. C'est Dieu qui a raison et non pas ma couleur de peau. Le temps de la moisson, c'est le moment où Dieu va dompter toute l'adversité vécue dans le passé. Les Jourdains devaient se calmer et s'incliner devant le peuple de Dieu et le laisser passer. En clair, les eaux du Jourdain avaient fui dès l'instant que les sacrificateurs avaient posé leurs pieds en obéissant à la voix de Dieu. J'aimerais que nous nous mettions devant une réalité différente. Vous savez, nous avons l'habitude d'aller faire le baptême à Brédune. Mettez-vous devant la mer, devant l'océan. Si vous habitez une ville où il y a un lac ou une grande rivière ou simplement un fleuve, allez vous mettre juste en face. Regardez l'étendue et aussi les côtés dangereux de ces eaux, même si elles ne sont pas bruyantes, même si elles sont pas, elles n'ont pas des vagues assez violentes, mais quand vous voyez les eaux passer, vous pouvez voir la lourdeur et la profondeur et les dangers que cela renferme. Mettons-nous à la place d'Israël devant un fleuve ou devant une rivière et réfléchissez. Si vous avez visité des villes où il y a des grandes eaux, où il y a l'océan et tout, mettez-vous en face. Et pendant que vous vous retrouvez, imaginez-vous à la place de qui ? De peuple d'Israël. Et Dieu dit au sacrificateur, mettez les pieds dans l'eau, ayez la foi. N'écoutez plus les sons de ces vagues violentes. N'ayez plus en esprit la dangerosité qui renferme le fleuve, l'océan, la mer ou encore le lac. Allez-y, c'est moi qui vous dis d'avancer. Et c'est justement cet élément de confiance qui a déclenché les miracles. Et c'est la pensée divine pour nous ce dimanche ou encore dans la suite des temps, pendant que nous serons en train d'explorer, de revivre, de lire, de relire encore ce message. Le temps de la moisson est vu comme le moment où le Seigneur brise toute forme de rébellion à sa parole. Et c'est aussi le moment où Dieu ôte les doutes pour nous pousser vers une foi exubérante. La confiance en ce que Dieu dit, la confiance en ce que Dieu déclare. Et c'est aussi le temps où Dieu dit au sacrificateur, avancez, atteignez la maturité, purifiez-vous. Vous avez la responsabilité de conduire le peuple de Dieu, non pas comme des aventuriers, mais comme des personnes qui portent l'arche. Il doit y avoir donc dans le cœur de tout un chacun de nous les côtés sacrifice. Certes, lorsque Dieu parle de leader ici, en faisant allusion au sacrificateur, il parle du pasteur, il parle des anciens, il parle des responsables et tout, mais chacun a une portion, un lopin de terre dans le monde de l'esprit où tu es responsable. Tu es responsable de ta vie, tu es responsable de tes frères, de tes sœurs, tu es responsable devant Dieu. Et notre implication nous amène tous à comprendre que dans les domaines où Dieu m'a amené, nous devons nous poser la question, c'est quoi ma responsabilité? Est-ce que je l'assume? En l'assumant, est-ce que je l'assume de la bonne et de la meilleure manière? Et c'est ce que Dieu nous parle ici. C'est temps de la moisson, les temps de la traversée, comme il est dit, les Jourdains, pour aller posséder ce qui nous appartient, demande, exige que tu quittes la rébellion. Il y a certaines personnes qui sont rebelles par rapport à leur contribution. Ils ont toute forme de raison par rapport à donner à Dieu, sauf la raison que Dieu leur donne. Certaines personnes sont rebelles à leurs parents. Ils ont toutes les raisons pour justifier leur insoumission parce qu'ils ont un certain âge, parce qu'ils ont été abusés dans le passé, parce qu'ils ne font pas confiance aux hommes, parce qu'ils ne font pas confiance aux femmes, et tout un tas de raisons qui ne sont pas justifiées par Dieu. En clair, pour aller posséder les territoires ou entrer dans sa vie glorieuse, la rébellion doit sortir de notre cœur. Le temps de rébellion doit être banni. Non seulement cela, nous devons entrer dans une voie où Dieu nous pousse vers la maturité. Et nous devons associer dans ce que nous faisons, ce qu'on appelle ici le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas d'entrée dans la terre promise. Sans sacrifice, il n'y a pas de percée. Sans sacrifice, il n'y a pas de réussite. Sans sacrifice, il n'y aura pas de grâce. Sans sacrifice, il n'y a rien. Pour que la grâce nous soit donnée à nous, mortels, il a fallu que Dieu envoie son Fils sur la croix. Voici les sacrifices de Christ. Voici ce que Dieu fit pour que nous ayons la vie. Et c'est donc les choses que nous devons aujourd'hui embrasser, ôter le doute. Et nous devons atteindre un niveau d'obéissance collective. Et lorsqu'on parle du niveau d'obéissance collective ici, comprenez que vous êtes bien vous tout seul. Vous croyez en Dieu, vous marchez avec Dieu, vous persévérez dans les choses de Dieu. Mais il y a un côté où Dieu attend que vous fassiez les mouvements vers les autres. Il n'y a pas de place pour une foi individuelle, pour des exploits individuels. Il n'y a pas de place pour un développement personnel. Il y a de la place pour un développement personnel qui n'étend que vers le développement communautaire. Tout ce que Dieu attend, c'est ce que nous sortions de l'environnement égoïste. Et j'en reviendrai tout à l'heure. Voici les choses qui vont caractériser les temps qui caractérisent les temps de la moisson et qui en même temps deviennent des plateformes qui vont tous nous propulser vers la possession de l'héritage tant attendu. L'année vient de commencer. Il est donc important que nous regardions comment a été guidée notre vie l'année passée ou les années passées. Avec quelle sorte d'indépendance nous avons fonctionné, loin de toute autorité, refusant d'être couvert, d'être conseillé, d'être encadré, d'être guidé, d'être dirigé ou d'être simplement enseigné. Nous avons fait les choses selon notre cœur et non pas selon le cœur de Dieu. Nous avons été soumis à Dieu, mais insoumis aux hommes. Tu es soumis à Dieu, tu pries, tu lis la Bible, tu fais tout ce qui est important pour un enfant de Dieu de faire, mais tu es insoumis à tes parents, tu es insoumis à ton mari. Tu es insoumis à tes responsables dans la communauté. Dieu donc te dit, tu peux avoir beau expérimenter, mais il y a quelque chose de grand qui t'attend et qui est conditionné par la fin des temps de rébellion dans ton esprit, dans ton âme, dans ta pensée et même dans tes songes. Parce que le Seigneur t'attend vers des choses grandes, puissantes et fortes. Les doutes doivent être remplacés par la foi. La peur doit être remplacée par l'audace. La témérité doit devenir une réalité pour certains d'entre nous, la ténacité. Nous devons rester forts, unis. Nous devons chercher à atteindre cette obéissance collective, ta participation, ton implication dans les groupes de croissance, ton implication, ta participation dans les groupes de dames, dans les groupes des hommes, dans les groupes de jeunes. Et les parents doivent accompagner leurs enfants dans ces domaines-là. Votre enfant qui vit chez vous, qui mange chez vous, qui dort chez vous, doit sentir votre autorité. S'il ne veut pas suivre votre Dieu, qu'il aille chercher ailleurs. Tant que tu vis chez moi, tu es dépendant financièrement de ma vie, tu fais ce qui est important dans la maison. Et la culture de la maison, c'est moi qui la définis. Tu ne peux pas vivre, manger, dormir chez moi et tu t'es converti à l'islam. Ou simplement, tu t'es converti à rien. Pendant que tout le monde se lève pour aller au culte, toi, tu es là endormi et tu as les toupets de me dire à 13 ans que tu te sens pas bien, tu peux pas venir au culte. Le problème, c'est que votre leadership est défier vos parents par des enfants chétifs pesant 42 kilos qui n'ont que 16 ans. Nous cherchons donc l'obéissance collective d'abord à la maison, puis dans la communauté. Et ça, c'est pas la responsabilité du pasteur ni des responsables des jeunes ou des pasteurs, je sais pas qui, c'est votre responsabilité à vos parents. Vous devez grandir dans votre autorité. Si vous ne savez pas le faire, vous avez le droit de vous tourner vers les leaders, les responsables pour donner sagesse, compréhension, attitude, comment gonfler votre capital dans le domaine de leadership en tant que père. Savoir parler aux enfants. Il y a des choses qui sont négociables. Il y a des choses qui sont non négociables. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est moi qui connais le chemin, qui est le meilleur chemin pour toi, un garçon de 19 ans. Ou une fille de 16 ans. Une fille de 16 ans ne connaît pas mieux Dieu que moi. Non. Une fille de 16 ans ne connaît pas mieux le chemin que toi. Tu sais pourquoi est-ce que tu es en Christ et tu sais pourquoi tu l'amènes. Il arrive des moments où des gens, par leur conviction, même en étant sur le mauvais chemin, entraînent leurs enfants sur les mauvaises voies. Il y a quelque chose qu'on appelle leadership qui doit être développé. Pas seulement la foi. C'est comme ça que vous allez voir une personne qui est née dans une famille musulmane va être copine ou copain avec ton fils. Ils vont dans le même établissement. Ils ont fait 3 ans, 4 ans ensemble. Le chrétien n'invite pas le musulman à l'église, mais le musulman invite le chrétien chez lui à l'église et le chrétien va à l'église des musulmans, autrement appelé mosquée. Le chrétien est acculé par son entourage musulman, au point qu'il se cache pour manger son petit morceau bien assaisonné du porc, par complexe. Le chrétien ne sait pas appuyer ni présenter vertement ses principes devant les musulmans, mais c'est le chrétien qui courbe les chines et qui a peur de manger son porc ou sa baguette au porc. C'est juste une projection pour dire, c'est pas question de conviction chrétienne ou pas, c'est question de leadership. Un musulman sait qu'il porte même sa fausse doctrine, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Mais ce sont souvent les enfants de Dieu qui cachent leur identité. Et nous voulons donc que les parents travaillent ces côtés obéissance collective. Et dans la communauté, nous bougeons vers cette position. Raison pour laquelle nous vous attendons, nous souhaitons, nous désirons que votre implication dans les groupes de croissance soit aussi importante que lors d'une réunion de dimanche comme celle-ci. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce qui caractérise la saison. Pour rentrer dans la terre de prédilection, là où Dieu a accroché toutes les bonnes choses qu'il nous a réservées, passe par la fin de la rébellion et aussi ce côté sacrifice où nous devons avancer et tout et tout. Pourquoi est-ce que nous parlons d'un leadership différent que nous devons percevoir? Parce qu'avant de traverser, Dieu avait donné la responsabilité à qui? À Josué. Moïse venait de mourir. Un nouveau leader devait s'élever. Au temps de Moïse, le peuple avançait, suivait Dieu parce qu'il était accroché aux signes extérieurs. Il y avait la colonne de nuée, il y avait la colonne de feu. Il devait voir la colonne et s'attacher à Dieu. En d'autres termes, Dieu était présent comme un feu dévorant. Tu marchais, il était heureux, il ne t'attaquait pas, tu restais en vie. Tu t'écartais du droit chemin, le feu pouvait s'embraser complètement, t'avaler. Dieu pouvait envoyer des maladies et complètement terrasser les peuples. Mais au temps de Josué, ça exigeait une maturité supérieure. Vous savez, vous êtes capable de suivre parce qu'on vous punit, parce qu'on peut vous chicoter. Mais vous faites preuve de plus de maturité quand il n'y a pas un regard qui vous surveille. Vous êtes en ordre, vous êtes productif. Parce qu'il y a votre chef qui est dans le bureau, qui n'est pas loin. Alors, vous ne vous entraînez pas dans les bavardages inutiles. Vous êtes concentré devant votre ordinateur, dans votre bureau, et le travail avance. Dès l'instant que le chef fait un petit mouvement, tout le monde se retrouve dans la pièce à côté. Prendre son café, prendre son thé, et le travail peut attendre. Vous avez des personnes comme ça dans certains milieux. Lorsque les parents sont là, vous faites semblant de réviser et vous révisez. Lorsque les parents ne sont pas là, c'est la bonne vie. Tout le monde est sur son smartphone, tout le monde est sur la télé, tout le monde est sur YouTube, sur Facebook ou encore sur Netflix. La maturité se révèle lorsque vous êtes seul et qu'il n'y a pas une contrainte par une personne qui est présente, qui vous regarde, qui vous ordonne. Vous faites preuve de maturité lorsqu'il n'y a pas une mainmise sur vous. C'est toujours vos parents qui surveillaient vos comptes, qui regardaient si vous dépassiez les niveaux souhaités ou pas, si vous entrez à découvert. Les jours où vous sortez de la maison, vous avez 18-19 ans, vous allez à l'étranger pour les études, c'est là où on saura si les bases de la bonne gestion avaient été bien bâties dans ta vie. C'est comme ça que vous avez des enfants qui quittent un lieu pour aller dans un autre pays. La première fois qu'ils quittent les toits paternels ou familiales, ils sont explosés et ils perdent le repère. Ils sont partis agneaux, ils rentrent à la maison loup. Ils sont partis bien habillés, ils rentrent à la maison déshabillés. Ils sont partis se maquiller convenablement, ils rentrent à la maison avec des maquillages de prostituées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une personne à côté. C'est la réalité qui existait entre le peuple dirigé par Moïse et le peuple que devait diriger Josué. La réalité est celle-ci. L'autre, de l'autre côté, c'est un peuple qui devait voir le feu de Dieu, la puissance de Dieu, les tremblements de terre, l'eau qui sort du rocher pour avoir la crainte de Dieu, marcher avec Dieu. Mais de l'autre côté, vous avez un peuple qui n'a rien vu comme miracle, qui ne pouvait s'accrocher à rien. La seule chose à laquelle il devait s'accrocher, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est comme qui dirait, vous fréquentez une église où personne ne tombe, où vous n'avez jamais entendu un enseignement qui parle des démons. Mais tout ce qui vous attache, c'est la présence de Dieu. En clair, le peuple dirigé par Moïse était un peuple immature. Le peuple dirigé par Josué était un peuple mature. Il ne s'était pas attaché à Dieu parce qu'il a reçu un mariage, parce qu'il a reçu des papiers, parce qu'il a reçu un poste, parce qu'il vient d'acheter une maison. Et aujourd'hui, la vie chrétienne est polluée par la mentalité de ce que nous recevrons physiquement de Dieu. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est une part non négligeable de la parole de Dieu. Mais ce ne sont que des accessoires. Dieu te donnera un mari, une femme, une maison, un travail, un diplôme pour que ça soit un complément. Et j'ai souvent dit ceci, en voyageant, j'ai mon sac. Dans mon sac, il y a dentifrice, il y a brosse à dents, il y a pyjama, il y a chaussettes, etc., etc., des chemises, des rechanges et des pantalons. C'est pas ce qui est plus important. En venant ici à Utah, ce n'est pas mon sac qui est plus important, c'était de venir rendre visite à Joël. Mais pour rendre mon voyage agréable, j'ai pris un déodorant, j'ai pris une dentifrice, j'ai pris une brosse à dents, j'ai pris des chaussettes de rechange, etc., etc. Et c'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Nous avons une destination qui s'appelle la montagne de Sion. la terre promise où nous allons. Dieu te donnera un mari, Dieu te donnera un diplôme, Dieu te donnera du travail, Dieu te donnera une maison, Dieu te donnera une voiture, mais nous ne sommes pas focalisés sur toi, parce que nous sommes le peuple de la génération de Josué. Nous sommes ceux qui suivons et marchons avec Dieu, bénédiction ou pas. Mais nous savons qu'à la fin de toutes choses, Dieu nous bénira. Mais notre engagement à Dieu n'est pas défini par ça. Et c'est comme ça que vous avez des personnes qui disent à Dieu, « Seigneur, je te donnerai une dîme, un don, si tu me fais ceci, c'est bien comme prière. » Mais tu ne peux pas conditionner Dieu pour suivre Dieu. « Je te donnerai ceci si tu me donnes ça. » C'est une prière des immatures. Mais je suis Dieu, peu importe ce que tu me donnes ou pas. Ça, c'est la prière des hommes et des femmes matures. Ça demandait une nouvelle génération. Nous allons explorer 2022. Nous appelons 2022, nous prenons 2022 comme étant la terre promise, là où sont enfouies en terre les promesses que Dieu nous a faites, même celles qu'il a faites à nos parents. Nous voulons les ramasser, les cueillir comme des fruits. Mais comprenez le contexte du monde et de la saison dans laquelle nous vivons. C'est la saison de la moisson et dans cette saison, il y a des exigences. Tu ne peux pas vivre dans la saison d'hiver en t'habillant avec le vêtement d'été en lin, tu mourras. Et dans cette saison des moissons, il y a le préalable, il y a des valeurs, des principes, des choses que Dieu veut voir dans notre vie pour que notre percée soit définitive. Au temps de Josué, le peuple ne devait pas suivre, accroché aux manifestations extérieures. Remarquez, dans les églises où les gens sont accrochés aux miracles, aux choses extérieures, la dépendance aux choses devient la norme et la foi réelle, authentique en Dieu devient très faible. Le peuple sous la direction de Moïse a tourné en rond pendant 38 ans. Leur foi était basée sur ce qu'ils mangeaient. Dieu nous donne la manne, nous le suivons. Dieu ne nous donne pas la manne, nous pleurons comme des gamins. Dieu nous donne de l'eau, nous le suivons. Il ne nous donne pas de l'eau, nous sommes prêts à retourner en Égypte. Et dans le désert, ce peuple tentait Dieu, disait, nous voulons retourner en Égypte parce que c'est là, en Égypte, où nous mangeons de la viande. Nous étions assis aux côtés des pots de viande. Ils ont oublié que l'Égypte les a brisés, humiliés, rabaissés, ramenés au niveau d'esclaves, tout en sachant qu'un esclave n'a pas de droit. La vie d'un esclave est à la merci, est à la... En fait, la vie d'un esclave dépend du bon vouloir de son maître. Tu vis, tu vis pas. Je te ôte la vie. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Et nous comprenons que Dieu veut quelque chose de nouveau dans la vie de son peuple, et c'est là où nous devons voir. Ces temps donc exigent et demandent une réalité différente. Contrairement au temps de Moïse, le peuple était conduit, comme je disais, par la colonne de nuée et colonne de feu, et devait se soumettre au leadership de Dieu par rapport aux événements. Mais pour traverser au temps de Josué, le peuple devait regarder l'homme de Dieu appelé Josué et les sacrificateurs qui, eux, portaient l'arche. En d'autres termes, la mentalité devait changer. La perception devait changer. Il n'y avait plus de présence physique de Dieu comme colonne de feu, colonne de nuée, comme à l'époque de Moïse. Nous ne dépendons pas des miracles pour suivre Dieu. Nous dépendons de ce que Dieu dit. C'était Josué qui dirigeait le peuple avancé. Il est dit dans le livre de Josué, chapitre 3, versets 14 à 17, le peuple devait tenir ferme pendant qu'il y avait des grandes eaux qui descendaient de manière déchaînée. Les Jourdains étaient en furie parce que c'était une saison des grandes tempêtes. Et Dieu va dire à ce peuple, « Tenez bon » par la bouche donc de Josué. Et le peuple devait tenir bon en ayant la foi, sans vivre la maturité, l'immaturité, comme au temps de Moïse, où le peuple murmurait à tout bout de champ. Quand il y avait une petite épreuve, ils fouillaient, ils se cachaient, ils se plaignaient. C'était des enfants gâtés. Ils avaient la manne, ils avaient la couverture, il y avait un chauffage dans le ciel la nuit, qu'on appelle colonne de feu. Vous savez, dans le désert, pendant la nuit, il fait très, très, très froid. Et pendant la journée, il fait très chaud. Dieu avait pourvu pendant la journée, il a mis sur leur tête la colonne des nuées qui les couvrait comme un arbre qui offre son ombre à ceux qui viennent s'abriter dessus. Et pendant la nuit, Dieu a mis un chauffage spirituel comme colonne de feu pour les chauffer, comme une doudoune, comme un petit manteau qui les empêchait de mourir, de grelotter pendant la nuit. Ça, c'est le Dieu des cieux. Mais le peuple, au lieu de répondre par maturité, ils ont répondu par immaturité. Ces accès, ces facilités a transformé leur vie, a fait d'eux des capricieux. Vous qui avez des parents qui vous offraient des voyages, des vacances, que eux-mêmes n'avaient jamais vécu, que cela ne vous perturbe pas au point de penser que tout est facile. Vous devez travailler, vous devez être impliqué, vous devez vous donner aux études et ne pas vous dire que vos parents sont arrivés là où ils sont arrivés par facilité. Rien ne s'obtient par facilité. Vous devez apprécier les moments que vos parents vous partagent. Vous devez apprécier ce que vous recevez. Vous savez, moi j'ai été l'enfant d'un pauvre, très pauvre. J'ai rentré à l'école avec de vieux vêtements. Je me rappelle avoir été en cours avec des chaussures trouées, dans un environnement où tu étais entouré des enfants riches. Tu devais marcher d'une certaine manière pour que ton pied ou encore le plat de ton pied ne puisse pas faire découvrir les trous qu'il y avait sous ton soulier. Je sais qu'est-ce que c'est rentrer à l'école avec l'uniforme d'il y a 2 ans et envier les autres. Chez moi, on n'avait pas de télé. Je sais qu'est-ce que c'est arriver en cours, dans la cour de la récré, un lundi matin où tes amis te racontent les films du week-end où toi, tu n'as pas un mot à dire. Tout ce que vos parents vous offrent, vous, enfants de l'Europe, capricieux et immature. Je ne parle pas de mon église, hein, mais comprenez que c'est en même temps un principe. Si vous avez cette petite démangeaison en vous qui vous monte la tête au point d'être irresponsable, insoumise à la maison, je vous dis calmement ici, calmez-vous. Vos parents sont les héros. Ils vous ont donné ces semblants de confort au prix de larmes, des fois des humiliations pour arriver là où ils sont arrivés. Que tout enfant dans cette maison comprenne et sache ce qu'on appelle « honore ton père et ta mère ». Et c'est ce qui est important ici. Israël dans le désert était composé des paresseux et des capricieux. Mais Israël qui devait traverser la mer Rouge était composé des hommes matures qui ne dépendaient ni d'un miracle, ni de la présence de Dieu. Ils dépendaient de la parole de Dieu. L'arche renfermait le rouleau sur lequel Dieu avait écrit, les tables, pardon, sur lesquelles Dieu avait écrit les commandements. La parole de Dieu était la boussole par excellence, la direction, le GPS qui les conduisait. Qu'est-ce qui doit nous conduire vers le lieu de prédilection? C'est la parole de Dieu. Ne passez pas d'une église à une autre parce que vous avez appris qu'il y a l'onction ici, il y a l'onction là-bas. Soyez pas pentecôtiste. Soyez stable. Écoutez Dieu, entendez Dieu. Sortez du camp de ceux qui murmurent, de ceux qui se plaignent pour un petit rien. Entrez dans les camps de ceux qui ont des paroles positives dans leur bouche. Peu importe les épreuves, que ce soit dans les études, que ce soit au travail, demeure là-bas. Que la mort vienne te trouver là où tu es. Bouge pas. Comme Dieu avait dit à Isaac, pendant que tout s'effritait autour de lui, la famine, la sécheresse, les difficultés, les douleurs et tout ce que vous voulez, tout le monde fuyait en Égypte. Dieu lui dit, toi, ne pars pas. Reste ici et creuse. Bouge pas. Reste là, persévère. Que la mort vienne te trouver en train de persévérer. Parce que c'est la saison de la moisson. Et cette saison permettra à ceux qui continuent à croire d'avancer, d'évoluer, de progresser, de prospérer. Ils se sont tenus donc debout, ils sont restés là, dit le verset 16, pendant que les eaux régorgeaient de toutes parts. Pendant plus d'une heure, les eaux étaient déchaînées. Mais la parole de Dieu était, mettez vos pieds dans les eaux. C'est comme si, qui dirait, tu as plusieurs réalités financières, parents ici, parents là-bas, frères ici, tu as pour tous ceux qui sont en Europe, qui ont des chantiers au Congo et qui trouvent que la raison de ne pas donner à Dieu, c'est parce qu'ils ont un chantier. Vous devez comprendre ce que Dieu dit ici. Dieu n'a que faire de votre chantier. Tout ce que Dieu veut, c'est votre obéissance. Vous ne pouvez pas donner à Dieu une raison pour ne pas bâtir votre vie, pour ne pas bâtir le but de Dieu sous prétexte que vous avez 4 chantiers. Je vais vous poser cette question. C'est un peu méchant, mais c'est en même temps, comment dirais-je, mesquin. La question est celle-ci. Qui vous a envoyé? Oh non, j'ai investi ici, tout pour finir, tout s'est effrité, tout a disparu. As-tu demandé à Dieu? Oh non, j'ai fait ceci, les gens qui travaillent sur mon chantier, ils m'ont volé. On a même l'intention des fois de dire bien fait. La volonté de Dieu ici n'a qu'à faire avec l'argent. Le fond de ma pensée, c'est l'obéissance et la foi dans ce que Dieu dit. Le temps de la fin, ce n'est pas le temps de signes, prodiges et miracles de manière que nous le connaissons. C'est le temps de suivre la caisse qui est sur les épaules de leader, appelé sacrificateur, la parole de Dieu qui entre dans notre cœur et qui doit se donner la peine de changer tes raisons et donner à Dieu la raison. Même les fouilles archéologiques montrent qu'il s'est passé un véritable miracle lors de la traversée d'Israël du Jourdain. Il y a eu un gisement. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai regardé d'ailleurs pour ceux qui ont Disney, il y a un très bon documentaire qui parle des gisements de réalité biblique, fait par un Américain qui a des origines asiatiques et tout. Très, très bon. Nous devons donc comprendre que la volonté de Dieu que nous entrons dans la profondeur des eaux, c'est comme ce que Jésus avait dit à Pierre. Pierre lui dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien trouvé et tout dans ces eaux. Jésus lui dit, va encore dans les eaux profondes, jette ton filet. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'aller plus loin dans ton engagement, dans ton attachement, et d'arrêter de faire le flirt avec Dieu, une forme de flirt dans les choses de l'esprit. Au fait, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de sérieux. Nous sommes à distance. C'est comme Pierre à l'époque qui avait menti ou trompé ou trahi Jésus. Il suivait Jésus, mais distant. Il ne veut pas être confronté à ce que les gens, au point que les gens disent, mais toi, au fait, c'était déjà ça. Toi, tu n'étais pas avec ces messieurs. Au fait, par crainte, par peur, par manque d'engagement sérieux, il suit, mais à distance. Tu es avec nous sans être avec nous. Bien que les eaux étaient en train de secouer, mais leur foi les a tenus. Bien que les réalités de la terre nous montrent que nous avons beaucoup de préoccupations, beaucoup de factures à payer, mais la réalité divine veut que tu puisses aider ton frère à l'église, que tu puisses donner un petit rien à celui qui est dans le besoin, à aider cet étudiant, à aider cette dame, à aider cet homme, à aider cette personne. C'est ça la maison de Dieu. Et la chose qui doit nous maintenir, c'est le cœur de Dieu. Les enfants d'Israël continuent donc à marcher avec le Seigneur, à suivre. Et pendant qu'ils suivaient, l'arche de l'Éternel était sur les épaules du peuple de Dieu et des serviteurs de Dieu. Et nous savons que cela n'est caché qu'une seule chose, l'endurance et la persistance collective. Nous ferons ces choses ensemble. Nous n'irons pas dans un nouveau local sans qu'il y ait une implication totale et générale. Et c'est là où nous voyons la différence entre la génération de Moïse et la génération de Josué. Nous voulons que ceux qui s'embarquent avec nous puissent déclarer haut et fort que nous sommes la génération de Josué. Et nous voulons donc faire la différence avec la génération précédente qui, elle, ne faisait que murmurer, comme je dis, qui, elle, ne faisait que bouder. Dieu dit à Moïse de soulever un bâton, par exemple, à l'époque. Il a obéi et la mer Rouge s'est scindée. Mais à l'époque de Josué, la chose a complètement changé. La manifestation qui s'était passée à l'époque de Moïse demandait éventuellement une chose nouvelle ici dans cette période-ci. La foi, l'implication personnelle qui doit éventuellement nous amener vers des choses nouvelles. Ça, c'était le premier point. Voyons voir rapidement le deuxième point. Dieu leur dira plus de 6 fois, prenez courage et avancez. Prenez courage. Et ça, c'est une belle parole pour ceux qui pleurent, pour ceux qui ont douté en 2021, pour ceux qui comptent le nombre de mois, des années qui passent, pour ceux qui ont l'âme complètement essorée par les réalités difficiles, douloureuses, ça peut être professionnel, ça peut être spirituel, ça peut être d'ordre familial, ça peut être d'ordre financier. Tout ce qui est important, c'est que Dieu te dit, prends courage. Prends courage et fortifie-toi. S'ajoute à cette parole que Dieu nous a dit la semaine passée, soyez toujours joyeux. En étant joyeux, tu es en train de rigoler, de minimiser, si pas de banaliser les sons de la chair et de la terre. Regarde où tu es arrivé. Ton cas est presque fini. Tu es entré dans les curseurs. Tu es maintenant sur les curseurs, ou bien les curseurs sont sur toi. Tu fais partie maintenant des statistiques. Non, nous ne faisons pas les statistiques. Nous ne faisons pas partie des statistiques mondains. Nous faisons partie des statistiques qui viennent du ciel. Et la parole de Dieu dit dans Deutéronome 1, 38, Deutéronome 3, 28, Deutéronome 31, 6 à 8 et verset 23, la même chose. Courageux. Soyez courageux. En clair, nous pouvons dire, pour traverser et entrer dans ces lieux où tout ce qui est bon nous attend, l'audace est un ingrédient non négligeable. En dehors de la joie, tu dois avoir de l'audace. Et l'audace t'attache avec cette réalité de croire en sa bonne étoile. Tu frappes les portes. tu envoies des CV à gauche et à droite, mais tu dois bouger, t'es secoué. Il y a certaines choses que tu n'auras pas en envoyant simplement le CV. Tu dois te lever de ta maison, aller frapper aux portes. N'avez-vous pas entendu parler des personnes qui ont pris la place de ceux qui devaient être là avant eux? Et c'est là où Dieu nous attend. Josué chapitre 1, verset 6 à 7, ou chapitre 6, chapitre 1, verset 9 et 18, nous parle de la même chose. Sois courageux, lève-toi. Nous ne devons plus être ou ressembler aux poltrons, aux paresseux. Nous devons être des véritables courageux. Chacun dans son lieu. Dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6, la même annonce est faite à toute la compagnie, à toute la masse des personnes. Et il est clair que c'était une exigence divine pour aller conquérir Canaan. Il fallait être courageux parce que dans la terre promise, il y avait Jéricho. Et dans Jéricho, il y avait des géants, des hommes de guerre connus depuis des temps immémoriaux, que ces gens-là étaient des battants. Ils étaient baraqués, très élancés, musclés. Mais nous, nous devions croire en notre Dieu, un peuple sans formation, sans passé glorieux dans le domaine militaire. Et rappelez-vous que le peuple qui a traversé pour la terre promise, c'était des gens nés dans le désert. Et nulle part, la Bible dit qu'il y avait un camp de formation militaire dans le désert. Certes, ils se sont préparés, ils ont reçu des informations pour aller en guerre. Mais en clair, ils étaient désavantagés. Ils sortaient d'un environnement esclavagiste. Et vous savez, quand vous avez été esclave, vous perdez certaines manières, certains réflexes. Quelqu'un était sorti de la prison, disait, en prison, il y a une particularité. Vous ne touchez pas les poignées des portes. On vous ouvre la porte et on la ferme pour vous. Ce qui fait que certaines personnes, quand ils sortent de la prison, ils ont tendance à ne pas fermer les portes. En clair, vous entrez dans une prison, après avoir passé 7 ou 8 ans, vous perdez certaines notions de liberté. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sortent de la prison, ils sont obligés de commettre un autre forfait pour qu'on les renvoie en prison, parce qu'ils ont été mis dans des moules prisonniers. Et cela a reconfiguré leur structure interne. Ils ne peuvent plus vivre la liberté. Ils commettront un forfait pour retourner dans la vie qui maintenant est devenue la leur. Israël était prisonnier en Égypte pendant des siècles. Ils ont été conditionnés. Maintenant, ils devaient aller combattre. Et les ingrédients qui devaient les amener à devenir des puissants héritiers de toutes les grâces que Dieu avait enfouies dans son cœur, et passer par les éléments que nous avons cités. Entre autres, l'audace, le courage. Et c'est ce que Dieu attend de tous les enfants de Dieu. Et c'est le reflet même qui doit être celui que nous voyons, celui que nous reflétons dans cette nouvelle saison où Dieu nous fait la promesse. Il dit, tout endroit où foulera la plante de vos pieds, je vous les donnerai en possession. Mais non, nous n'allons pas posséder les terres comme ça avec une certaine facilité. Non, nous devons donc devenir grands, puissants et forts et nous lever. Et si nous avançons dans la terre promise, c'est pour y aller et représenter Dieu. Et c'est là la volonté parfaite de notre Seigneur. Une qualité demandée, exigée, comme nous avons dit, l'audace et l'implication pour nous, comme pour Israël. Nous devons vaincre des grandes puissances qui s'élèvent devant nous. Rien de ce qui se met devant nous ne pourra nous résister parce que le Seigneur marche avec nous. Et si nous regardons, bien sûr, du point de vue naturel, nous serons donc effrayés. Nous allons trembler parce que les épreuves sont innommables, sont nombreuses. Les challenges, comme on dit, les défis sont nombreux. Tout le monde ici n'a que 24 heures. Mais dans 24 heures, tu dois être maman. Dans 24 heures, tu dois être la femme de quelqu'un. Dans 24 heures, tu es les collègues de quelqu'un. Tu as un travail. En fait, nous devons, une chose que moi j'ai compris dans la vie, nous devons arrêter de nous plaindre. Nous devons assumer et accepter. Il y a des gens comme toi et moi qui sont compétents, qui sont des bonnes mères, des bons papas, des bons maris, des bonnes femmes, et en même temps sont des bons ouvriers dans leur milieu de travail. Ils sont des bons fils ou des bonnes filles de leurs parents et ils vivent leur relation avec leurs frères, sœurs et amis d'une certaine manière honorable. Et ces personnes-là ne sont pas supérieures à nous. Ils n'ont pas 3 yeux, ils n'ont pas 4 bras. Ils n'ont pas 7 pieds, ils n'ont pas 2 ventres, ils n'ont pas 3 fronts, ils n'ont pas 4 oreilles. Nous avons tous 2 oreilles, 2 yeux, 2 trous de nez, 1 seule bouche, Mais pourquoi les autres sont plus prolifiques que nous? Et nous, nous vivons dans des chambres qui n'ont pas été arrangées ni nettoyées depuis 3 semaines. Tandis que nous n'avons que 6 heures de travail. Mais nous avons des gens qui travaillent 14 heures, mais qui ont des chambres ordonnées et propres. Leur linge est propre. Leur lit est toujours rangé. Le problème n'est pas le temps. Le problème, c'est que toi, dans ta position, tu trouves déjà des excuses. Et c'est ça la faiblesse. C'est pourquoi ta voiture n'est pas nettoyée. C'est pourquoi tes vêtements ne sont pas repassés. C'est pourquoi ta chambre n'est pas ordonnée. C'est pourquoi tes chaussettes sont à l'est, du côté du Liban. La deuxième paire est de l'autre côté, à l'ouest, vers Los Angeles, et toi au milieu. Et c'est ce qui fait que certaines personnes ne se lavent pas comme ils se doivent. Tout le monde a 24 heures. Lorsque tu auras arrêté de te plaindre et penser que tu es la personne la plus chargée du monde, c'est alors que tu trouveras la possibilité d'être ce que tu devais être, ordonné, structuré, propre et en même temps prolifique dans les domaines qui sont les tiens. Et c'est ce que nous devons comprendre dans notre vie. Il y a toujours du temps pour faire ce qui doit être fait. Je répète, il y a toujours du temps pour faire ce qui doit être fait. Il n'y aura jamais du temps pour ce qui ne doit pas être fait. Tout part avec la volonté de surpasser ses limites. Et les premières limites, c'est la paresse, les excuses. Et tant qu'il y aura excuses devant, nous ne ferons jamais rien. Et c'est dans tout le domaine, que ce soit dans votre engagement avec Dieu, financier ou pas financier, que ce soit dans votre engagement dans les domaines professionnels, que ce soit dans votre engagement avec votre famille, que ce soit dans votre engagement dans votre parti politique, dans tout le domaine, tant qu'il y aura excuses en avant-première, il n'y aura jamais de force pour aller au-delà. Si nous regardons sur le point de vue naturel, nous serons vaincus. C'est comme une personne, on te donne un livre à lire et le livre a 1200 pages. Je connais des grands lecteurs. Je connais une personne qui était un grand lecteur. Je lui ai tendu un livre qui avait 1000 ou quelque chose comme ça, 1200 pages. Le fait déjà de voir le livre, il était déjà tétanisé, paralysé, il n'a jamais lu. Le problème, c'est vos yeux et les oreilles qui écoutent les sons de la terre versus les sons du ciel. L'homme a en lui toutes les facultés d'aller au-delà des limitations imposées par la réalité de la vie. Pour preuve, l'homme a maîtrisé la mer, l'homme a maîtrisé les airs et a envoyé des engins qui pèsent des tonnes appelés avions. L'homme a maîtrisé l'air. L'homme peut être ici, il parle à quelqu'un qui est à 1000 km avec un appareil avec le téléphone sans fil. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de limite pour celui qui croit. La Bible dit, les jours où l'on rebâtira tes murs, tes limites seront reculées. Tu dois permettre à la main de Dieu de venir bâtir ce qui est détruit en toi, ta perception, ton engagement, ta compréhension, ta mentalité doit être complètement reconfigurée pour élargir. Le problème, c'est que tous ceux qui sont paresseux trouvent toujours des raisons. Et les raisons veulent dire, je ne laisse pas une autre personne venir modifier ma perception, bâtir les murs qui sont défectueux dans ma conception. Et c'est tout le problème ici. Le temps de la moisson, c'est un temps où il y a reconfiguration. Troisième point, pour aller conclure. Dans le livre de Josué, chapitre 1, toujours, versets 10 à 18, nous voyons qu'il y a des tribus, des Ruben, des Gad, des Manassé, qui avaient une mentalité par laquelle ils plaçaient d'abord le bien supérieur de la nation, de toute la communauté, avant leur propre bien. Rappelez-vous des éléments que nous avons vus. Rappelez-vous. Le dessein de Dieu, la volonté de Dieu pour l'assemblée doit être mis au-dessus. Ça s'appelle l'altruisme. Nous refusons l'égoïsme. Je ne regarde pas à moi, je regarde à l'autre. Et c'est toute la base de la vie spirituelle. Dieu n'a pas regardé ses intérêts, il a regardé les intérêts des hommes, il a envoyé son Fils. Jésus n'a pas regardé son intérêt. Lui, Dieu, il est venu sur la terre, il a donné sa vie. Le principe du royaume commence par donner et non pas recevoir. Et ça, c'est la leçon que tous les égoïstes devaient comprendre. Le royaume commence par donner. Et c'est ce que Ruben, Gad et Manassé vont nous démontrer ici. Une puissante réalité de la Bible que nous devons saisir. Même si ces hommes, pendant qu'ils marchaient, l'histoire est celle-ci, ces tribus avaient déjà leur territoire de l'autre côté du Jourdain. même en possédant déjà leur territoire, leur héritage, ils ont continué de combattre jusqu'à ce que toutes les autres tribus, il y en avait 12. Ici, vous avez 3, Ruben, Gad et Manassé, qui avaient déjà leur territoire. Ils pouvaient s'asseoir en disant, nous, on a déjà notre territoire, vous 9 tribus, continuez la bataille, allez combattre jusqu'à ce que vous aurez vos territoires. Après, on viendra festoyer. Non, ils ne se sont pas dit parce que nous, on a déjà les territoires, on peut maintenant dormir tranquille. Non. Sous Josué, Israël marchait comme un corps et l'égoïsme était banni du milieu d'eux. Tu n'entres pas à la terre promise en étant un voleur. Tu dois être capable de donner à ceux qui sont autour de toi. Tu n'entres pas dans la terre promise en étant une personne égoïste. Et l'égoïste doit quitter. C'est pourquoi vous voyez, et Dr Douf avait parlé de la foi communautaire qui est importante. Non seulement la foi communautaire, l'engagement communautaire. Nous arrêtons avec des vies spirituelles éparses, individuelles à gauche et à droite, des petites lumières éparpillées à gauche et à droite. Non, ma venue ici à Utah, de ma vie, je n'aurais jamais imaginé venir dans ce coin des Mormons. Non. Quand on voit les États-Unis, je pourrais me dire un jour, oui, même si j'allais partir en vacances avec ma femme et mes enfants, je partirais à Los Angeles, je partirais à New York, je partirais à Atlanta, je partirais à Las Vegas, mais pas ici. Utah, qui va venir à Utah pour faire quoi? Mais puisqu'il y a un frère, un fils du royaume ici, j'ai la noble responsabilité en tant que responsable de cette communauté, comme une poule rassemble ses enfants, de briser la cassure de la distance entre Joël et ses autres frères et la maison de Dieu. Israël était en Chine. Je lui avais dit, je prendrai le vol, je viendrai là-bas. Ce n'est pas parce que j'aime voyager ou j'aime les avions. Personne n'aime les avions. C'est l'endroit, oui, c'est vrai, on dit que c'est le transport le plus sûr. Mais c'est aussi les transports qui, lorsqu'il y a problème, c'est les plus problématiques. La réalité, c'est que nous devons constituer un agrégat, un groupe, un truc qui est un bloc, qui fait bloc. Et j'aimerais que tous ceux qui suivent Dieu comme Pierre, à distance, vous puissiez comprendre que le temps de votre distance doit être brisé. Pour certains, c'est physique dans les groupes de croissance, groupes de personnes. Pour d'autres, c'est dans leur domaine financier, engagement dans l'Église, qui est complètement boiteux. Le temps de vivre solo dans sa maison et profiter de toute la vie de la communauté et être égoïste est révolu. Le temps de l'égoïsme n'est pas le temps, n'est pas la réalité qui devait être vécue au moment de la moisson. Rappelez-vous, qui moissonne peu, recevra peu. Le temps de la moisson exige qu'il y ait une largesse dans le cœur. Le cœur doit s'élargir. Et notre mentalité doit complètement céder à Dieu. Vous pouvez faire partie du groupe, mais vous n'aurez pas à manger les meilleurs fruits quand nous entrerons dans la terre promise. Parce que parmi nous, il y a des Akans. Ils font partie de la cohorte, mais ils ne sont pas de la cohorte. Ils sont partie du groupe, mais c'est une tâche. C'est une saleté dans les groupes, passez-moi le terme. C'est-à-dire, au milieu de cet agrégat, il y a une tâche qui s'appelle toi, qui s'appelle moi, qui s'appelle nous. Le temps de la moisson, le temps de la traversée, ce n'est pas le temps. Regardez la noble cause, et ça, c'est la chose qui tue nos pays. Vous savez, cette petite portion de cet enseignement, c'est les choses qui doivent être enseignées chez les gouverneurs, chez les ministres, chez les présidents. Qu'est-ce que Ruben, Gad et Manassé montraient? Ça, c'est la politique. Ils ont montré à tous que l'intérêt supérieur de la nation était au-dessus de tout. Je suis dans le pays où un président, de triste mémoire, a envoyé ses adeptes dans un des bâtiments les plus sacrés, qui révèle le battement même du cœur de la démocratie, pour contester les élections. Donald Trump, pour ne pas le citer. En d'autres termes, vous voyez l'égoïsme d'un homme qui ne veut pas admettre son échec. Il prend l'intérêt supérieur de la nation, il les met dans sa poche, quitte à galvauder tout, au point de besoin mesquin d'un égo qui n'en est même pas un. Et c'est là où certains d'entre nous, dans la parole, dans l'Église, dans la communauté, devions comprendre. Vous pensez à votre petit chantier au Congo, vous pensez à votre petit plan business que vous allez lancer, et cela va paralyser toute votre mentalité, vous devenez égoïste, même envers votre femme. envers votre mari, envers votre Dieu qui vous a donné souffle de vie, qui vous a donné voiture, qui vous a donné profession, qui vous a donné femme, qui vous a donné mari, qui vous a donné même les teints noirs que tu as. Ah oui. Le Seigneur notre Dieu est bon. La tribu qui avait reçu un héritage à l'est du Jourdain avait laissé leur famille et a traversé le Jourdain, mettant en danger leur vie. Et ils avaient combattu avec les autres tribus pour une terre qui n'était pas la leur. Vous avez vu ça? Si les politiciens africains pouvaient comprendre cela, je n'arrêterai pas de prier. Tant que la situation des Toussaints ne sera pas rangée. Je n'arrêterai pas de prier tant que Christopher n'aura pas un emploi. Je n'arrêterai pas de prier tant que Cédric ne réussira pas, tant que Marie-Kérène aura des soucis, tant que Céleste aura des soucis à l'école. Voici l'image que nous voulons ici présenter. C'est pas parce que toi, tu as une petite maison, tu es bien chez toi et tu oublies tous les autres. Et c'est ce que j'aimerais que nous comprenions ici. Un bon responsable, un bon enfant de Dieu, c'est quand tu es monté, tu es capable de tenir la main de l'autre, de le tirer vers toi. Tu as été étudiant, tu connais la difficulté des étudiants. Tu as maintenant un travail, fais un geste aux étudiants qui sont dans la communauté. Tu as 28 849 voitures. Donne une à un jeune homme dans l'église, à une fille à l'église. Voici ce que nous voulons. Ce n'est pas parce que toi, tu es marié, tu as oublié qu'il faut prier pour tes sœurs et pour tes frères. C'est cette mentalité égoïste qui va nous empêcher de traverser et d'atteindre la terre promise et de recevoir ce que nous avons. Je n'arrêterai pas de voyager tant que certaines personnes n'auront pas atteint les niveaux souhaités, désirés et leur implication dans le groupe. Je n'arrêterai pas. Je ne me tairai pas tant que Sion ne sera pas rebâti. Voici les cœurs qui doivent battre dans la cavité où se trouve votre cœur. L'égoïsme doit être banni. J'aimerais que tout le monde se mette sur l'ordre de bataille. Nous avons un territoire à aller conquérir, même si toi, tu es déjà confortable chez toi. Il y a des frères qui ne sont pas confortables. Il y a des personnes dont les mariages ne sont pas construits. Il y a des gens qui continuent à espérer. Il y a des gens qui ont encore des rêves. Et parce que toi, tu as réussi, tu veux tout exposer au fin de faire souffrir les autres. Non? Et c'est là où j'aimerais que nous puissions avoir les regards tournés. Tu es élève à l'école, tu es au lycée et tu es un bon élève. Tu dois chercher dans la communauté ceux qui ont des difficultés pour les tirer à ton niveau. J'ai toujours raconté l'histoire d'un frère, s'il faut appeler frère à l'école. Il était premier de la classe. Mais pendant le temps des examens, il venait avec un ballon, il glissait ça dans les pattes des gens. Lui, il allait dans un coin, il étudiait. Mais toi, tu es déjà premier. Pourquoi tu dois ramener tout le monde dans la distraction? En fait, son problème, c'était de rester premier et de créer une distance avec les autres. Dans le royaume de Dieu, quand tu réussis, tu dois amener tout le monde à réussir comme toi. L'accès que tu as eu, tu dois permettre aux autres pour dire, voilà, j'ai trouvé le chemin. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que Joab, dans la Bible, est devenu le premier militaire, le haut gradé dans l'armée de David. Parce qu'il avait trouvé le chemin que jamais personne n'avait trouvé avant lui. Et il a invité les autres pour aller posséder Sion. L'image, l'exemple de Ruben, de Gad et de Manassé doit devenir le mode de vie de chacun de nous. Quand tu réussis, tu regardes derrière, qui est-ce que tu peux tirer? Je ne me tairai pas. Je n'arrêterai pas de prier, ni de travailler, tant que telle personne aura des besoins. Mon rôle, c'est de me batailler à leur côté, de pleurer avec ceux qui pleurent, de rigoler avec ceux qui rigolent. Tu n'as pas le droit de dormir calmement chez toi, avec un bon chauffage, tant que l'autre n'a pas de chauffage. Nous sommes une communauté des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. J'aimerais que nous puissions faire preuve d'altruisme. Oublie-toi un moment, pense à l'autre. L'intérêt supérieur de la communauté, c'est ce qui t'amènera à payer ta dîme. C'est ce qui te donnera l'opportunité de regarder en direction des autres et non pas regarder tes propres problèmes. Si tout le monde regardait ses propres problèmes, personne ne fera jamais rien. Je resterai chez moi. Si tout le monde regardait ses problèmes, je vais prendre toute ma connaissance biblique, je la garde chez moi. Je la travaille, je la partage avec mes enfants. On devient audacieux, on gonfle notre foi, on devient mature et on vous laisse tous sur les tapis. Tu as reçu gratuitement, tu dois partager. Ce n'est même pas une question de débat. C'est comme ça que le monde a été créé. C'est ce que Dieu veut. de la même, Dieu est en train de nous apprendre que remporter des victoires doit être un exercice collectif de l'autre côté du Jourdain. Nous devons combattre ensemble pour aller posséder la terre. La collectivité, la mentalité collective doit être la nôtre. Ils ne pouvaient pas seulement se réjouir de leur propre héritage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tandis que les autres sont en train d'errer sans terre, nous devons tous nous lever et aller ensemble. La conséquence de ces tribus qui n'auraient pas placé le bien de la communauté au-dessus de leur bien avait été déjà traitée dans le livre des Nombres, chapitre 32. Si les tribus s'étaient écartées, émiettées, éparpillées, Israël n'allait pas posséder la terre. Non. Non, non, non. Et cela allait empêcher les plans de Dieu pour ces peuples. La Bible dit dans Néhémie chapitre 4, verset 14, « Combattez pour vos frères. » Et ça, ça doit devenir le leitmotiv de chacun d'entre nous. Notre stratégie pour vaincre l'ennemi dans ces temps de la fin s'appelle avancer collectivement et non pas individuellement. Chacun dans son petit coin, dans son petit cocon. Dieu dit « Faites le bien, allez combattre pour vos frères. » Et c'est la volonté de Dieu avant d'aller conclure. Il y avait une réalité que nous devions comprendre ici. Dans cette bataille, il n'y avait pas une personne qui était, lui, différent des autres, qu'on appelait les grands puissants. Au temps de Juges, vous avez connu Samson, vous avez connu Déborah, vous avez connu plusieurs, qui encore? Ouais, Déborah, Samson, les plus connus. Et puis vous avez Josué, mais il y en avait encore d'autres. Et tous étaient populaires parce qu'ils délivraient le peuple. Mais dans le temps de la fin, il n'y aura pas un self-made man. Il n'y a pas une personne au-dessus des autres qui lui a tout, qui connaît tout, qui est beaucoup plus populaire et les autres sont complètement ignorés. Les temps de la fin, la traversée pour posséder la terre promise, c'est un environnement où il n'y a pas de superstars, où tout le monde est superstar. L'objectif était la progression totale, collective, pour une victoire collective. Et non pas des petites personnes à gauche et à droite, non, non. Et c'est ce que Dieu veut que nous comprenions ici. Laissez-moi souligner un fait ici pour vous rincer un peu l'œil. Vous avez beaucoup des églises où vous voyez Martin Zongo Ministries. Le ministère de Martin, dans certaines églises, le pasteur a son site personnel où c'est son ministère et il y a l'église. C'est une folie pentecôtiste. C'est la gloriole. Vous avez dans une église, le pasteur est hyper connu. À part les pasteurs, on ne connaît personne. On connaît deux, trois personnes. Ce n'est pas la mentalité du congrès. Tu entends parler de Woodrow, tu entends parler de Marlon, tu entends parler d'Ernest King, tu entends parler de Scott Webb. En fait, la réalité, c'est quoi? Nous devons rendre tout le monde aussi fort et aussi puissant que nous. C'est la composante de la vie spirituelle biblique dans les temps de la fin. Vous avez entendu parler de Caleb, vous avez entendu parler de Josué. Mais lorsqu'ils sont partis en guerre, c'est toute la compagnie. Et c'est ce que Dieu est en train de chercher de bâtir aujourd'hui. C'est ces desseins qui doivent s'accomplir. Et c'est un groupe de frères, comme il est dit dans Philippiens chapitre 2, et non pas l'intérêt d'un seul homme, le confort d'un seul homme, la prospérité d'un seul homme, le pouvoir d'un seul homme, la réputation ou l'influence d'un seul homme. Or, la mentalité dans les églises pentecôtistes, c'est quoi? Je vais à l'église pour être béni. C'est pourquoi beaucoup des chants chrétiens sont au troisième, au premier, à la première personne du singulier. Je. Qu'est-ce que Dieu fera pour moi? Et on va dans l'église pour soi. Il n'y a pas la notion de la communauté, il y a la question de l'individualité. Dieu va bénir quelqu'un aujourd'hui. Dieu va élever quelqu'un aujourd'hui. Dieu va bénir ou encore va délivrer quelqu'un. Tout est configuré dans le quelqu'un et non pas dans les tous. Voici les quelques différences de ce que vous devez percevoir en venant dans une communauté comme ici. Le mot communauté déjà fait référence à un groupe et non pas à un individu. C'est pourquoi, dans cette maison, je ne suis pas la seule personne qui doit être respectée ou écoutée. La structure est bâtie au point qu'il y ait un respect mutuel entre les gens. Je peux ne pas être là dans beaucoup des réunions que vous faites, je ne suis pas là. Mais l'ordre divin veut que la personne qui conduit la réunion, qui a été équipée, qui a été placée, reçoive les mêmes honneurs. Il n'est pas question d'égoïsme, même dans les honneurs. Et c'est ce que Dieu désire aujourd'hui pour nous, pendant que nous avançons, les triomphes du jugement. C'est un point que nous allons évoquer plus tard. Mais j'aimerais simplement nous faire comprendre que la traversée vers le lieu de la moisson a des obligations et ces obligations sont donc importantes. Les triomphes de la foi sur le jugement parlent de Rahab qui était une prostituée. Dieu a montré par-dessus toute chose que lorsque les gens s'attachent à lui, Ce n'est pas ce qu'ils font qui est important, mais plutôt comment ils ont cru et qu'est-ce qu'ils donnent comme temps, comme espace dans leur cœur pour obéir à la pensée et à la parole de notre Père. Nous devons donc nous réjouir et nous dire dans ces temps de la moisson, Dieu nous réserve des grandes choses. Nous allons moissonner, nous ramasserons le fruit mûr et nous mangerons le meilleur fruit du pays. Et pour ce faire, il y a plusieurs éléments que Dieu veut que nous puissions considérer. Et ces éléments sont les différents points que nous avons évoqués ici. Et Dieu attend donc de chacun d'entre nous une obéissance et aussi un désir personnel de lui dire, Seigneur, je viens devant toi. Tu as mis devant moi un nouveau système de leadership et je suis, j'avance, j'évolue, je progresse. Je ne vais pas suivre parce qu'il y a signe, parce qu'il y a miracle. Je ne suis pas seulement Dieu parce qu'il y a une faveur, parce qu'il y a eu une intervention divine. Je suis Dieu parce que Dieu m'a appelé à lui. Et en m'appelant à lui, en avançant, en suivant ses voies, lui fera en sorte que tout ce qui est accessoire, mariage, voiture, maison, tout ce que tu veux, compte bancaire, puisse m'accompagner. Il exige un ingrédient, appelez le courage, soyez courageux, soyez audacieux, avancez vos pieds en plein eau, n'ayez pas peur, ôtez les doutes, croyez en moi parce que je marche avec vous. Et c'est ce que nous voulons savoir. Et le troisième point que nous avons évoqué, c'est l'intérêt supérieur de la communauté versus mon intérêt à moi. Avancez le but de Dieu, la maison de Dieu, mes frères, mes sœurs, pendant que je fais cela pour les autres, Dieu lui s'occupe de moi. Pendant que j'avance ses buts, Dieu s'occupe de moi. Et ça a toujours été la manière de Dieu de faire. Jésus est venu, il a donné sa vie, mais il a récolté la gloire, les honneurs, au point que Dieu lui donna un nom qui soit au-dessus de tous les noms, par lesquels tout genou fléchira. Voici les donnant-donnant dans le royaume du Seigneur. Ce qu'on donne en Christ, on ne le perd jamais. Il est dit, jette ton pain à la surface de l'eau, dans le livre d'Ecclésiaste, avec le temps, tu les retrouveras. Rien de ce que l'on fait dans le royaume de Dieu restera sans produire, car la promesse de Dieu a parlé. Et le Seigneur qui nous parle n'est pas un homme pour mentir, parce que notre Dieu est grand. Il est dit que ton oui soit oui. Et si le oui des hommes doit être accompli, qu'est-ce que vous pensez de celui qui, lui, est dans le ciel? Nous reviendrons de manière beaucoup plus détaillée. Les trois points évoqués sont des points importants. Dieu nous montre qu'il y a un nouveau système de leadership qui conduit. Dieu nous dit d'être courageux, autrement dit d'être ferme, autrement dit de continuer à croire, autrement dit ne baisse pas les bras, autrement dit continue à croire en ta bonne étoile, autrement dit n'écoute pas les sons de la terre, de la chair, de l'âge et des conditions qui t'environnent. Écoute les sons du ciel. Troisième point, l'intérêt supérieur de la communauté. Tu as un budget dans ta maison et sache que la communauté a un budget. Tu veux une bonne santé dans ton corps, sache que la communauté a besoin aussi de la bonne santé. Et tu lui donnes l'opportunité d'avoir la bonne santé en amenant ta maturité, ta contribution dans les réunions, ta présence dans les réunions, ton partage dans les réunions, ton soutien dans les réunions. C'est ce qui permet à la communauté d'être en bonne santé. Le refus de venir dans les réunions avec un visage froissé, avec la peur, la crainte ou encore le soupçon, tout un tas d'histoires, c'est ta contribution pour que la maison de Dieu avance. Nous sommes de la race de Ruben, de Gad et de Manassé. Nous sommes déjà dans notre héritage, mais nous cherchons l'héritage des autres. Je ne serai pas en paix tant que Winnie n'aura pas eu accès à son héritage, tant que Victorine n'aura pas son héritage. Je ne serai pas en paix tant que la sœur Alphonsine n'aura pas possédé la terre que Dieu lui a promis. Je ne serai pas en paix tant que Nono n'aura pas accès, tant que héritier, tant que Didier, tant que Alain, tant que Jean-Denis, tant que José. Ça, c'est le tableau de notre vie désormais. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, les combats collectifs. Je monte, je vais monter avec ma sœur. Je monte, je vais monter avec mon frère. Faites attention. Ne faites pas de votre bénédiction, de votre élévation, un objet de pleurs pour l'autre. S'il vous plaît, faites pas ça. Vivons dans un environnement cohérent. Est-ce possible de bâtir une église différente? Oui, par la force de qui? Non pas par la force d'un homme, par la grâce de Dieu. Dans cette église, dès le jour 1, lorsque j'ai voulu appeler l'église Centre de David, mon objectif c'était que l'Église soit composée des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Je veux avoir des bons dans mon Église, pas de méchants. Je veux avoir des gens généreux, pas d'égoïstes. Je veux avoir des gens qui ont un cœur pour aider et non pas ceux qui regardent les gens tomber avec une plaie qui gicle et qui passent à côté. Je veux avoir des gens avec un grand cœur. Priez les uns pour les autres. Notre vie sur la terre, sans avoir aidé une personne, n'est pas une vie. Tu n'as pas été appelé pour accumuler, tu as été appelé pour être un distributeur. Nous voulons bâtir une église qui honorera Dieu, remplie des hommes et des femmes avec un bon cœur, non pas des murmurateurs ou des murmuratrices. Nous voulons une église comme vous, comme moi. Et croyez-moi, si Dieu vous a amené dans cette église, c'est parce qu'il sait que vous avez ce cœur. Si Dieu vous a amené ici, c'est parce qu'il sait que vous lui donnerez l'opportunité, la possibilité d'échanger votre cœur pour les rendre comme les cœurs de David. Persévérant, humble, attaché, soumis et en même temps hospitalier et généreux. Devenons des peuples, des gens généreux. Devenons généreux envers Dieu et envers les autres. Faisons-nous du bien les uns les autres. Nous ne sommes pas une église qui vit sur les commérages, les lésondis. J'ai lu s'il a parlé ici et ça. C'est un poison que j'aime pas à l'église. Et dès l'instant que je trouve, je réalise qu'une telle chose commence à monter dans le cœur de quelqu'un, croyez-moi, même si vous êtes millionnaire, vous êtes messie, vous amenez la plus grosse dîme à l'église, je vais me séparer de vous. Je vais vous dire au revoir, partez. Allez trouver ailleurs, pas ici. Et je suis très sérieux avec ça. Dès l'instant que je trouve qu'il y a murmure, division, insulte et tout le reste, ma première réaction, c'est pas te dire de partir ou te renvoyer. Je vais faire de tout mon mieux pour te parler, te conseiller, te montrer les raisons pour lesquelles je veux ça et non pas ça. Et je serai très, très lent à la colère. Mais lorsque tu me montres que tu tiens sur ta position, je te dis va. Même si on n'aura pas l'argent pour payer les loyers, ma philosophie est celle-ci. Avant que tu sois à l'église, j'étais pauvre et j'étais pas mort. Et maintenant qu'il m'arrive d'avoir 1 euro qui reste tout le mois dans mon compte, j'ai pas besoin de toi. Non, j'ai besoin de Dieu. Parce que quand j'avais pas, Dieu ne m'a pas abandonné et je suis pas mort. Et Dieu ne m'abandonnera pas. Gardez ces choses dans votre cœur. Relisez les versets bibliques, relisez vos notes et nous reviendrons dessus. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à nous faire du bien. On va prier une minute. Dis au Créateur, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Tu sais là où tu veux mettre le doigt dans mon cœur, dans ma vie. Tu sais ce que j'ai. Tu sais ce que j'ai fait, tu sais ce que j'ai pas fait. Tu sais ce que tu attends de moi. Et dans tout ce qui a été dit, Seigneur, je t'appelle mon aide. Viens me tenir la main, viens me guider, viens me diriger, viens m'accompagner. Baissons nos fronts, élevons nos voix et prions Dieu. Saint de Dieu, roi des gloires, je t'honore et je te célèbre parce que ni n'est comparable, ni n'est semblable à toi. Merci pour ce moment que tu nous as permis de partager avec mes frères et sœurs pour cette parole. Tu nous apprends à suivre, non pas comme le peuple de Moïse a suivi dans le désert, mais de suivre comme le peuple de Josué a suivi avec foi, en dépendant de toi et de ta parole, et non pas s'accrochant à ce qu'ils avaient reçu de ta part, comme grâce, comme miracle. Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous l'audace, la foi, mais aussi cette témérité pour aller plus loin avec toi, persévérer dans les choses de l'Esprit, et ne compter que sur toi, et non pas, ô éternel Dieu, tournant nos oreilles vers les sons de la terre. Nous t'adorons et te bénissons, notre Dieu. Apprends-nous à mettre l'intérêt de la communauté au-dessus de nos intérêts personnels, mesquins et égoïstes. Donne-nous la capacité de voir la souffrance de l'autre. Donne-nous la capacité d'aider, de soutenir, ô éternel Dieu, l'autre. Donne-nous la capacité de tendre la main à l'autre et de l'amener à entrer dans sa possession, tel que tu l'as fait avec la tribu de Gad, de Dan et de Manassé. Donne-nous leur cœur, ô Dieu, afin de mettre nos vies en danger pour l'autre. Et les aider, éternel Dieu, désormais, dans le combat final à posséder l'héritage qui est le leur. Tu es notre roi, tu es notre guide, tu es notre Dieu, tu es notre sauveur. Nous te bénissons et continuerons à te bénir. Merci pour cette parole. Merci pour son poids. Merci pour sa révélation. Merci pour son impact. Mais merci aussi parce que tu nous aideras, éternel Dieu, désormais à l'implémenter. Que toute la gloire te revienne. Sois au centre de cette maison sainte de David. Continue à nous faire du bien, en nous invitant à ta table pour manger le mets succulent que tu as préparé avec tes anges pour nous, ton peuple. Car à toi seul revient toute la gloire, l'honneur et la louange pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.